Et c'est le journal d'Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Quand deux priorités environnementales s'entrechoquent, le plus grand parc solaire de France pourrait être construit en pleine forêt landaise. 1000 hectares de pins à déboiser pour faire place aux panneaux photovoltaïques. Le débat public s'achève cette semaine et vous l'entendrez, les habitants sont très divisés. Des règles d'isolement allégées dès aujourd'hui pour que la société puisse encore tourner. Omicron va perturber janvier. Combien d'absents parmi les soignants notamment? Nous serons à l'hôpital de Colmar. Dans ce journal aussi, l'abstention, enjeu clé de la présidentielle à 3 mois de l'échéance. Retour ce matin dans un village qui avait boudé les urnes la dernière fois. Et puis en Hongrie, un livre pour enfants devenu un symbole de l'opposition aux ultra-conservateurs.
Et au micro de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50, c'est aujourd'hui, je vous le rappelle, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran.
France Inter.
Des panneaux solaires ou des arbres, il va falloir, Alexis, choisir dans la forêt landaise.
Oui, car c'est au milieu des pins, dans le sud de la Gironde, que le plus grand parc photovoltaïque de France pourrait bientôt voir le jour. Puissance attendue d'un gigawatt, mais Oriseo, c'est son nom, ne fait pas l'unanimité à Socat, la commune concernée. Les habitants n'ont plus que quelques jours pour donner leur avis, c'est la dernière semaine de débat public. Et il est très vif ce débat, Célia Kiray.
Imaginez des panneaux solaires à perte de vue en plein milieu des pins sur une surface de 1000 hectares qui doit être déboisée. Cette forêt landaise est déjà exploitée, mais Jacques Archimbault, le président de la commission du débat public, l'a bien observé. Les riverains sont au minimum sceptiques, voire très inquiets.
1000 hectares de forêt à défricher, alors qu'on parle de changement climatique, de puits de carbone avec les forêts, c'est évidemment quelque chose qui a du mal à passer. Des incertitudes aussi concernant les risques, hein. Risque d'incendie, risque d'inondation au total. En effet, beaucoup d'incertitudes et pas mal de doutes.
Et dans ce projet d'€1 milliard au total, il y a des batteries de stockage d'électricité, un centre de données, une unité de production d'hydrogène vert. C'est un méga projet industriel, dénonce Daniel Delestre de France Nature Environnement.
En tant qu'association de défense de l'environnement, on est bien sûr pour les énergies renouvelables. Mais tant qu'il y aura des parkings de grande surface, tant qu'il y aura des toitures à couvrir de panneaux, on estime que la priorité, elle est là. Accepter ce projet serait un signal absolument gravissime pour le devenir de cette forêt.
Les entreprises s'engagent à replanter au moins 2000 hectares de forêt, mais le maire écologiste de Bordeaux et le président socialiste du département restent opposés à ce projet. Oriseo compte parmi les 20 plus grands projets solaires à l'échelle mondiale. S'il aboutit, les travaux débuteraient en 2024 pour une mise en service à partir de 2026.
Et ce projet de méga parc solaire est prévu dans une région, la Nouvelle-Aquitaine, qui est très avancée en matière de photovoltaïque. Elle affiche déjà la puissance raccordée la plus importante de France.
Il est 7h30. Des tests à tout va pour essayer de maintenir l'école à flot.
Face à la déferlante Omicron, janvier sera tendu, reconnaît le ministre de l'Éducation. Protocole ajusté en cette rentrée. Quand un cas positif se déclare dans une classe, il faudra toujours tester les élèves une première fois. Puis, nouveauté, réaliser 2 autotests à J+2 et J+4. Mais ce que redoute surtout le gouvernement, à l'école comme dans d'autres secteurs, c'est le nombre de salariés absents car positifs. Comment éviter une désorganisation de la société? Première solution, réduire la durée d'isolement. Dès aujourd'hui, 7 jours seulement pour les cas positifs pleinement vaccinés et même 5 avec un test négatif. Et plus de quarantaine désormais pour les cas contacts vaccinés. Cet après-midi, Jean Castex et 10 ministres feront le point sur la continuité des services publics essentiels, particulièrement à l'hôpital, où l'on se demande comment on pourra tenir dans ces conditions. Reportage en réanimation à l'hôpital de Colmar, signé Faustine Calmel.
Derrière les portes battantes, le service compte en temps normal 30 lits de réanimation. Il tourne avec 36 depuis les fêtes et 2 vont encore ouvrir cet après-midi.
Il y a toujours une lueur d'espoir en se disant on va y arriver, on va revenir à la normale.
Karine est cadre de santé.
Et puis non, on revient avec des variants, des nouvelles vagues qu'on nous annonce. Chaque fois, il faut réorganiser, dépasser cette fatigue, mais c'est compliqué.
Oui Nathalie, ça va ?
Mais en fait, là, on réouvre 2 lits à partir de lundi après-midi. Et donc, on est en train de combler les 15 premiers jours. C'est bon pour toi ? Ben écoute, super.
L'adaptation est permanente. Alors que sur les 40 postes d'infirmiers anesthésistes, 10 sont vacants, démissions et départs en retraite non remplacés, auxquels viennent s'ajouter les arrêts maladie. Elisabeth Gartner, la chef du service, en a comptabilisé 275 la semaine dernière pour les personnels paramédicaux de l'hôpital.
Sur un épuisement psychologique de certains personnels,
Nous avons certains arrêts de maladie liés au Covid, donc avec des personnels symptomatiques forcés de s'isoler. On espère que ça ne va pas monter sur le fait des contaminations avec l'Omicron.
Ici, 90% des patients de réanimation ne sont pas vaccinés, alors le docteur Victor Gerbert tente encore de persuader.
C'est bien mieux de prendre 3 injections de vaccin dans le bras plutôt que d'avoir 3 cathéters avec des aiguilles qui font 5 cm, un tuyau dans la trachée et de gestes de réanimation qui est bien plus difficile à vivre qu'une simple piqûre.
Des arguments qui peinent à convaincre même ceux qui sont sur le point d'être intubés, se désolent ces soignants épuisés.
Faustine Calmel, ce matin, 3572 malades du Covid en réanimation, c'est 200 de plus qu'il y a une semaine. Alors les nouvelles restrictions du jour seront-elles suffisantes? Dès ce matin, port du masque dès 6 ans dans les lieux publics, retour d'une jauge pour les grands événements, consommation uniquement assis dans les bars et télétravail obligatoire au moins 3 jours par semaine partout où c'est possible. Ce retour massif au travail à distance, ce sont forcément des voyageurs d'affaires en moins dans les avions. Les compagnies aériennes n'avaient pas besoin de ça, déjà touchées de plein fouet par les absences de personnel navigant. Encore 4000 vols annulés pour la seule journée d'hier au niveau mondial. Alors comment le secteur aborde-t-il cette vague Omicron, Philippe Lefebvre ?
Alors certaines d'entre elles font preuve d'optimisme, c'est le cas de Finnair, la compagnie finlandaise prévoit que les choses s'amélioreront cette année. Mieux chez Emirates, on annonce un retour aux bénéfices d'ici 18 mois, mais toutes les compagnies ne partagent pas cet enthousiasme. Ainsi, l'allemande Lufthansa a confirmé la suppression de 33 000 vols durant tout l'hiver. Et du côté français, on reste également très prudent, à l'image d'Alain Battisti, le président de la Fédération de l'aviation marchande, pour qui le pire est à venir.
On attend un effet qui pourrait être assez redoutable, en particulier pour les voyageurs à faire, puisque l'appel au télétravail, enfin et même l'obligation du télétravail 3 à 4 jours par semaine dans les entreprises, réduit considérablement l'aspiration au voyage. Alors, en matière de télétravail et de son impact sur le transport de voyageurs, eh bien, on avait vécu jusqu'à des baisses de plus de 50% du nombre de voyageurs et c'est ce qui risque de se passer avec un effet qui se réduira peut-être en février.
Et du côté finance, si en 2021 les compagnies européennes ont perdu pratiquement 21 milliards de dollars, ces pertes pourraient dépasser les 9 milliards cette année. Signe qui illustre bien la situation, Ryanair a annoncé 450 millions d'euros de pertes, soit le double des prévisions de la compagnie low-cost irlandaise.
Et en France, les voyages en avion seront eux aussi concernés par le pass vaccinal. L'Assemblée nationale entame cet après-midi la discussion du projet de loi en première lecture. L'exécutif espère une entrée en vigueur dès la mi-janvier. Dans l'opposition, le PS devrait voter pour, comme la majorité des élus LR, mais pas le RN ni les insoumis. Dans ce contexte de flambée épidémique, compliqué de se projeter dans la présidentielle. Premier tour dans un peu plus de 3 mois maintenant. Et au-delà des questions du moment sur les candidatures, une autre inconnue pourrait rebattre toutes les cartes, le niveau de l'abstention. Nous sommes ce matin dans l'Aisne, l'Affaire, 2800 habitants. En 2017, dans cette commune, un électeur sur 3 avait boudé le scrutin. Et 5 ans plus tard, Julien Morcelli, ça ne semble pas s'arranger.
Depuis la fermeture de la caserne militaire en 1993, entraînant le départ d'un millier de soldats, certains habitants comme Sylvie sont désenchantés.
Avant c'était une pharmacie. Les magasins ils ouvrent et 6 mois après ils referment.
Elle revient de l'agence Pôle emploi.
Je viens d'être licenciée là. J'étais agent d'entretien.
Sylvie n'ira pas voter au mois d'avril. Chantal qui va chez le médecin en connaît d'autres.
On ne fait plus rien, on reste chez soi. C'est facile à remuer quand il y a des gens qui se rassemblent et qui ont des idées en commun, mais quand il n'y a plus rien.
Au bout de la rue, les bras chargés de brioches, Aurélie et Isabelle sortent de la boulangerie. Elles font partie de l'association des parents d'élèves.
On a eu peur en début d'année scolaire de devoir fermer l'association.
On fait des réunions pour organiser par exemple un marché de Noël. On a 2 parents qui viennent sur 110 élèves.
Même Marie-Noël Villain, mère sans étiquette de l'Affaire, est à court d'idées.
Quand on organise du théâtre, plein de choses. On a fait une exposition, il y a eu très peu de personnes, alors que c'est gratuit. Nous nous battons pour garder la gendarmerie, les heures de la poste, elles ont baissé.
Ces fermetures de services publics accentuent le repli sur soi, selon le politologue Tristan Hoth.
On résume l'abstention à des modalités techniques. Les procurations, le vote électronique, le facteur principal de l'abstention, c'est le lien social. Et ce qui participe à la déstructuration du lien social, c'est la pauvreté en général.
Pour l'universitaire, il faudra du temps avant de renouer le lien entre ses électeurs déçus et les candidats à la présidentielle.
Le reportage de Julien Morcelli. Libye. À l'étranger, les généraux désormais seuls aux commandes du Soudan. Le premier ministre issu de la société civile depuis la révolution a démissionné hier soir. Abdallah Hamdok dit avoir échoué à réconcilier civils et militaires. Il estime que la survie du pays est menacée.
7h39, c'est l'histoire d'un petit livre, Alexis, devenu objet de résistance passive.
Nous partons pour la Hongrie, où un livre pour enfants s'est vendu comme des petits pains pendant les fêtes. Pas n'importe quel livre, c'est un recueil de contes revisité à la sauce LGBT par une association. Scandaleux pour les ultra-conservateurs au pouvoir, qui ont d'ailleurs fait voter une loi l'an dernier interdisant la représentation des homosexuels auprès des mineurs. Mais c'est apparemment contre-productif. À Budapest, Florence Labruyère.
C'est un petit livre bleu avec en couverture une biche, un lapin et un prince. Les héros sont des êtres pas comme les autres, des exclus ou des membres d'une minorité. Dorothea Redai est l'éditeur du livre.
Il y a par exemple l'histoire d'un lapin né avec trois oreilles. Les habitants de la forêt veulent le chasser parce qu'ils le trouvent trop bizarre.
Grâce à ses oreilles, le lapin est le premier à entendre le crépitement des flammes qui menacent la forêt et il sauve les habitants. Dans le livre, il y a aussi une nouvelle version de Cendrillon, où un prince épouse un autre prince. Un scandale pour le parti de Viktor Orban, qui a voté une loi sur la protection des enfants. Désormais, les livres qui parlent d'homosexualité ne doivent pas être montrés aux mineurs. Mais la loi n'interdit pas de les vendre. Et pendant les fêtes, le livre de contes de fées est parti comme des petits pains, témoigne ce libraire de Budapest.
It was our best-selling title. Most of our people said,
c'est un best-seller. Les gens nous disent « Ah, c'est ce fameux livre !» Mais il n'y a rien de scandaleux là-dedans. La loi a mobilisé les gens. Acheter le bouquin, c'est un symbole de résistance contre le régime.
Au départ, l'éditeur avait prévu d'écouler 1 000 000 d'exemplaires. Il en a déjà vendu près de 40 000. Budapest, Florence Labruyère, France Inter.
Et puis la logique respectée en Coupe de France de football. Marseille s'est qualifié hier soir pour les huitièmes en battant les amateurs de Chauvigny 3-0. Ce soir, Vannes en National 2 reçoit le PSG. Coup d'envoi 21h.
Alexis Morel, merci. L'édito politique à suivre.